Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, vous pouvez également écouter le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et la rubrique courrier et des musiques. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi les infos de l'Indonésie.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'être fidèles à notre antenne, la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Madame la directrice générale du développement des exportations nationales du ministère du Commerce dirige une mission commerciale au Moyen-Orient. La sculpture typique de Papouasie a pénétré le marché canadien. Pakistan a demandé une révision de la PTA avec l'Indonésie. Selon Gapki, des taxes de l'huile de palme de la France a l'impact sur les exportations indonésiennes. Le groupe de danse de la République d'Indonésie a remporté la médaille d'or et JP en Espagne. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Madame la directrice générale du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Nus Nuzulia Ishak, dirigera la mission commerciale au Moyen-Orient du 27 mars jusqu'au 1er avril 2016. Deux pays qui sont devenus la cible sont le Koweït et Oman. Nous allons nous concentrer sur cinq secteurs, à savoir le commerce, l'énergie, l'investissement, la banque et l'emploi professionnel, a déclaré Madame Nuss dans un communiqué de presse le samedi. Dans l'économie de l'Europe occidentale et les États-Unis, qui n'a pas complètement récupéré, le Moyen-Orient est un marché potentiel pour les produits d'exportation indonésiens au milieu de la crise économique mondiale, a déclaré Madame Nuss. Le Koweït et Oman sont les pays destinataires qui ont un grand potentiel dans la région du Moyen-Orient. La position des deux pays est stratégique pour le commerce indonésien avec les pays de voisinage. En outre, la baisse du prix du pétrole mondial a fait que ces deux pays commencent à développer d'autres secteurs industriels. Actuellement, les pays du Moyen-Orient sont actifs de développer en améliorant les infrastructures, le transport et la logistique entre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, a déclaré Madame Nuss. Cette mission commerciale intégrée est la continuation de la visite du président Joko Widodo à l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis du 11 jusqu'au 15 septembre 2015. Les œuvres de sculpture typiques produites par des artistes papouasiens ont commencé à pénétrer le marché au Canada. Selon le projet, l'Observatoire de la culture de la Papouasie de ce pays visitera Manokwari en mai 2016. C'est ce qu'a affirmé un artiste de la Papouasie, Eli Kray, à Manokwari vendredi. Les sculptures originales de la Papouasie ont très intéressé les artistes et des observateurs culturels à l'étranger. Elle a envoyé plusieurs fois les sculptures au Canada. Leurs commandes sont diversifiées telles que bouclier, sculpture et teinture murale. Selon Eli, outre le Canada, il y a aussi les commandes provenant de Batam et Yogyakarta. Le nombre total de commandes des deux régions est autant que 250 pièces. Les œuvres sculptures qui seront envoyées à Batam et Yogyakarta seront exposées au musée de l'art dans chaque région. Eli continue d'essayer d'élargir ses activités à d'autres pays, y compris la Chine et l'ASEAN. Le gouvernement indonésien devrait faire une révision de l'accord commercial préférentiel ou PTA avec le Pakistan en raison du déficit commercial, tandis que l'Indonésie a imposé l'excédent à atteindre 1,8 milliard de dollars américains en 2015. Il a été déclaré par le président de l'Association indonésienne de palmier à huile, M. Joko Suprianto, récemment à Jakarta. Selon lui, le Pakistan est le marché potentiel, notamment pour l'huile de palme. Actuellement, la coopération entre l'Indonésie et le Pakistan, réalisée sous la forme de PTA, en vigueur depuis septembre 2013. Grâce à la signature de la coopération, l'exportation de l'huile de palme brute et les dérivés de l'Indonésie au Pakistan n'a pas obtenu des obstacles des droits à l'importation et l'orange de Kino du Pakistan peut entrer librement dans le port de Tanjung Priok, Jakarta. La demande du Pakistan a été présentée par l'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie récemment et l'Association indonésienne du palmier à huile a transmis cette demande au ministre du Commerce, M. Thomas Lembong. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. L'Association indonésienne des hommes d'affaires de palmier à huile a déclaré que le plan de la France d'appliquer des taxes supplémentaires sur l'huile de palme de 90 euros par tonne avait peu d'impact sur les exportations indonésiennes, mais il est une forme discriminatoire. C'est ce qu'a affirmé le président de GAPKI, M. Joko Supriyono, lors d'une visite à l'agence de presse Antara à Jakarta. Il a déclaré que le plan français de prélever des taxes, surtout pour l'huile de palme, qui ne répond pas aux critères de durabilité environnementale. Toutefois, selon Joko, les définitions relatives aux critères de durabilité de l'environnement n'est pas encore claires. En outre, d'autres pays comme la Russie prévoient également de décider la taxe d'importation de l'huile de palme de 200 dollars américains par tonne. Le Parlement français a approuvé l'imposition de taxes supplémentaires sur l'huile de palme utilisée dans les aliments à partir de l'an 2017. L'ajout des taxes supplémentaires vise à refléter le potentiel des dommages environnementaux par des plantations de palmiers à huile et la taxe approuvée est élevée à 90 euros ou 102 dollars américains par tonne. La mesure de la France a été protestée par l'Indonésie comme le plus grand producteur de l'huile de palme. Le groupe folklorique Dana Diaksa Budaya SMP Lab School Cibubur a remporté la médaille d'or pour catégorie de 8 à 16 ans et dans le même temps a aussi remporté le Grand Prix, le gagnant global dans toutes les catégories au Festival folklorique international de la danse en Catalogne 2016 dans la ville de Lloret de Mar, Costa Brava, en Espagne. L'annonce des gagnants a eu lieu au Grand Casino Costa Brava, Lloret de Mar, a déclaré l'entraîneur de danse Dana Diaksa Budaya SMP Lab School Cibubur, Gilang Lestari Moko Dompit à Londres le samedi. Le festival tenu du 20 au 24 mars a été participé par 25 groupes d'artistes de 11 pays tels que l'Égypte, l'Ouzbékistan, la Russie, l'Arménie, Cuba, l'Indonésie et l'Espagne. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici les infos de l'Indonésie au kabar dari Indonesia. La première nouvelle est venue de la ville de Ambon. La fête culturelle de Timbalaur, où capture les vers marins ensemble, sera une icône touristique de la ville d'Ambon pour attirer les touristes nationaux et étrangers, a déclaré le maire d'Ambon, Richard Luhena Pesi, lorsque la fête de Timbalaur à Ambon le samedi. Selon lui, cette tradition continue d'être préservée jusqu'à présent dans la zone côtière Nusa Nive et les Timor. L'émergence de Laur est également affectée le cycle de la lune et du soleil en mars ou avril et apparaît seulement une fois par an. Selon Richard, l'activité de Timbalaur en Indonésie ne se fait que dans deux provinces telles que les Moluques et Nusa Tenggara Occidentale, la ville de Mataram. À Mataram, Timbalaur appelé Nyale est faite chaque année et devient des attractions culturelles, les populations locales et les touristes. Cependant, aux Moluques, notamment à Ambon, cette fête est seulement faite par les gens locaux. La province de Nusa Tenggara Occidentale, notamment Mataram, organise bien cette activité, de sorte qu'elle devient l'attraction principale pour les touristes. La fête de Timbalaur doit être promue dans l'agenda du tourisme dans un paquet touristique religieux alternatif, a déclaré Richard Luhena Pesi. La fête culturelle de Timbalaur est organisée sous la forme des arts et la cuisine typique faite à partir des verres marins, ce qui rend attrayant pour le public et les touristes. D'autres nouvelles et le phénomène naturel réapparu. Après l'éclipse solaire totale le 9 mars 2016, le mercredi 23 mars, il y a eu l'éclipse lunaire pénombrale. Une éclipse pénombrale se produit quand la Lune traverse la pénombre de la Terre. Dans cette éclipse, la Lune entière située à la pénombrale de la Terre. Donc, la Lune peut encore être vue avec la couleur sombre. Selon le fonctionnaire de l'Agence de météorologie et de géophysique de la région 3, M. Fajar, le peuple balinais peut regarder l'éclipse lunaire pénombrale pendant environ 4 heures. L'éclipse lunaire pénombrale à Bali, environ 77%. Cette éclipse lunaire pénombrale est un phénomène naturel qui se produit régulièrement, non pas à cause de l'éclipse solaire totale récemment. Le peuple balinais peut regarder l'éclipse lunaire dans leur maison, mais il vaut mieux lorsqu'ils vont sur la plage. Chers amis, c'était notre programme Les Infos de l'Indonésie de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, vive la dignité!
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 27 mars 1968, mort de Yuri Gagarin. Le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin, le premier homme de l'histoire à être allé dans l'espace d'où sa fille 1961, meurt dans un accident d'avion. Gagarin et le colonel Vladimir Sergine effectuaient un vol d'essai dans les environs de Moscou au bord d'un appareil prototype quand celui-ci a soudainement explosé. On continue le 27 mars 1968 l'inauguration de Suharto comme le deuxième président indonésien. Le général retraité de l'armée, Haji Muhammad Suharto, décédé à Jakarta le 27 janvier 2008. Il est le deuxième président de l'Indonésie, 1967 jusqu'en 1998, remplacé Sukarno. Dans le monde international, en particulier dans le monde occidental, Suharto a le surnom de souris général, car son visage est toujours souriant devant la presse dans chaque cérémonie officielle de l'État. Avant de devenir le président, Suharto a été le chef militaire pendant l'occupation japonaise et les Pays-Bas, avec le grade de major général après l'événement du Gerakan 30 septembre. Suharto a déclaré que le Parti communiste indonésien (PKI) est en partie responsable de cet événement et il a dirigé une opération pour le procher. Suharto puis a pris le pouvoir de Sukarno et est officiellement devenu président en 1968. Il a été réélu pendant 5 fois en 1998. Son mandat a pris fin après avoir démissionné le 21 mai de cette année. On change le 27 mars 1977, le désastre Tenerife. Thank you. Le désastre de Tenerife a été une collision de deux Boeing 747 à l'aéroport de Tenerife Nord à Tenerife, île Canaries, Espagne. Cet accident est le pire événement dans l'histoire du vol qui a tué 583 personnes. KLM Flight 480100 prend son vol sur la seule piste à l'aéroport et percute un avion de la Panam 1736 qui marche vers la même base. Auparavant, les deux avions ont été transférés à l'aéroport suite à une explosion de bombe Las Palmas. Les deux avions seront de retour à Las Palmas lorsque KLM 480100 prend son vol sans l'autorisation du contrôleur de la circulation aérienne ou ATC lorsque le Panam 1736 traversait la même piste. La pilote KLM avait essayé de forcer l'avion à décoller, mais seulement jusqu'à 100 pieds a frappé l'avion de la Panam. Le nombre de décès de l'avion KLM sont tous 234 passagers et 14 membres de l'équipage, alors que l'avion Panam 9, il y a 6 membres d'équipage et 266 de 317 passagers ont été tués. Ces amis, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir de l'édition le 27 mars. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
La mise au point de la semaine présente un sujet spécial dans la semaine.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée Le président indonésien Joko Widodo choisit le traitement du gaz bloc Masela sur Terre. Le président indonésien Joko Widodo, mercredi 23 mars, a annoncé la décision de choisir le système d'une raffinerie sur Terre pour le bloc Masela situé dans la province des Moluques. Cela a été déclaré par le président en marge de sa visite de travail à Kalimantan. Le gouvernement veut que le développement économique régional et national a également augmenté avec le bloc Masela. Selon le personnel spécial du président, M. Johan Budi, la construction de la raffinerie du gaz bloc Masela sur Terre vise à, entre autres, développer l'Indonésie orientale. Avant de prendre la décision, le président a attendu les explications de diverses parties sur l'étude des onshore ou offshore ou raffineries en mer. Le plan de la construction depuis le gaz Masela a été convenu depuis 2010 par le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales à l'ère de l'ancien président Susilo Bambang Yudhoyono. On a été décidé la construction avec le système flottant du GNL ou en mer et puis en 2013 jusqu'à 2014, on a trouvé de nouvelles réserves de gaz étant assez grandes, soit de 6,7 trillions de pieds cubes à 11,9 trillions de pieds cubes. Le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Sudirman Said, a déclaré qu'il enverrait une lettre officielle aux investisseurs de donner l'occasion pour réétudier le projet. Sudirman a également demandé à l'unité de travail spéciale de l'exécution d'activités des affaires de pétrole et de gaz en amont ou SKK Migas pour examiner en détail un rapport avec le processus de la construction sur Terre. Le contrat de partage de Masela a été signé en 1998 à prix fin en 2028. La société japonaise Inpec Corporation détient des actions de 65% et celle des Pays-Bas de 35%. Selon l'Observatoire de l'énergie de l'Université Trisakti, M. Pri Agung Rahmanto, la décision du président Joko Widodo sur cette question doit être contrôlée afin de donner un avantage maximal à la population. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales doit continuer la construction du bloc Masela. Selon lui, la considération principale du président est l'amélioration du bien-être économique et social de la communauté dans la zone autour de Masela. Chers amis, c'est à la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Madame la directrice générale du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Nus Nuzulia Ishak, dirigera la mission commerciale au Moyen-Orient du 27 mars jusqu'au 1er avril 2016. Deux pays qui sont devenus la cible sont le Koweït et Oman. Nous allons nous concentrer sur cinq secteurs, à savoir le commerce, l'énergie, l'investissement, la banque et l'emploi professionnel, a déclaré Madame Nus dans un communiqué de presse le samedi. Dans l'économie de l'Europe occidentale et les États-Unis, qui n'a pas complètement récupéré, le Moyen-Orient est un marché potentiel pour les produits d'exportation indonésiens au milieu de la crise économique mondiale, a déclaré Madame Nus. Le Koweït et Oman sont les pays destinataires qui ont un grand potentiel dans la région du Moyen-Orient. La position des deux pays est stratégique pour le commerce indonésien avec les pays de voisinage. En outre, la baisse du prix du pétrole mondial a fait ces deux pays commencent à développer d'autres secteurs industriels. Actuellement, les pays du Moyen-Orient sont actifs de développer en améliorant les infrastructures, le transport et la logistique entre les pays membres du Conseil de coopération du Golfe, a déclaré Madame Nus. Cette mission commerciale intégrée est la continuation de la visite du président Joko Widodo à l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis du 11 jusqu'au 15 septembre 2015. Les œuvres de sculpture typiques produites par des artistes papouasiens ont commencé à pénétrer le marché au Canada. Selon le projet, l'Observatoire de la culture de la Papouasie de ce pays visitera Manokwari en mai 2016. C'est ce qu'a affirmé un artiste de la Papouasie, Eli Cray, à Manokwari vendredi. Les sculptures originales de la Papouasie ont très intéressé les artistes et des observateurs culturels à l'étranger. Il a envoyé plusieurs fois les sculptures au Canada. Leurs commandes sont diversifiées telles que boucliers, sculptures et teintures murales. Selon Ellie, outre le Canada, il y a aussi les commandes provenant de Batam et Yogyakarta. Le nombre total de commandes des deux régions est autant que 250 pièces. Les œuvres sculptures qui seront envoyées à Batam et Yogyakarta seront exposées au musée de l'art dans chaque région. Ellie continue d'essayer d'élargir ses activités à d'autres pays, y compris la Chine et l'ASEAN. Le gouvernement indonésien devrait faire une révision de l'accord commercial provincial ou PTA avec le Pakistan en raison du déficit commercial, tandis que l'Indonésie a imposé l'excédent à atteindre 1,8 milliard de dollars américains en 2015. Il a été déclaré par le président de l'Association indonésienne du palmier à huile, M. Joko Suprianto, récemment à Jakarta. Selon lui, le Pakistan est le marché potentiel, notamment pour l'huile de palme. Actuellement, la coopération entre l'Indonésie et le Pakistan, réalisée sous la forme de PTA, en vigueur depuis septembre 2013. Grâce à la signature de la coopération, l'exportation de l'huile de palme brute et les dérivés de l'Indonésie au Pakistan n'a pas obtenu des obstacles des droits à l'importation. Et l'orange de quinoa du Pakistan peut entrer librement dans le port de Tanjung Priok, Jakarta. La demande du Pakistan a été présentée par l'ambassadeur du Pakistan à l'Indonésie récemment et l'Association indonésienne du palmier à huile a transmis cette demande au ministre du Commerce, M. Thomas Lembong. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Association indonésienne des hommes d'affaires du palmier à huile a déclaré que le plan de la France d'appliquer des taxes supplémentaires sur l'huile de palme de 90 euros par tonne avait peu d'impact sur les exportations indonésiennes, mais il est une forme discriminatoire. C'est ce qu'a affirmé le président de GAPKI, M. Joko Supriyono, lors d'une visite à l'agence de presse Antara à Jakarta. Il a déclaré que le plan français de prélever des taxes surtout pour l'huile de palme, qui ne répond pas aux critères de durabilité environnementale. Toutefois, selon Joko, les définitions relatives aux critères de durabilité de l'environnement n'est pas encore claire. En outre, d'autres pays comme la Russie prévoient également de décider la taxe d'importation de l'huile de palme de $200 américains par tonne. Le Parlement français a approuvé l'imposition de taxes supplémentaires sur l'huile de palme utilisée dans les aliments à partir de l'an 2017. L'ajout des taxes supplémentaires vise à refléter le potentiel des dommages environnementaux par des plantations de palmiers à huile et la taxe approuvée est élevée à 90 euros ou $102 américains par tonne. La mesure de la France a été protestée par l'Indonésie comme le plus grand producteur de l'huile de palme. Le groupe folklorique Danadiaksa Budaya SMP Lab School Cibubur a remporté la médaille d'or pour catégorie de 8 à 16 ans et dans le même temps a aussi remporté le Grand Prix, le gagnant global dans toutes les catégories au Festival folklorique international de la danse en Catalogne 2016 dans la ville de Lloret de Mar, Costa Brava, en Espagne. L'annonce des gagnants a eu lieu au Grand Casino Costa Brava, Lloret de Mar, a déclaré l'entraîneur de danse Danadiaksa Budaya SMP Lab School Cibubur, Gilang Lestari Moko Dompit à Londres le samedi. Le festival tenu du 20 au 24 mars a été participé par 25 groupes d'artistes de 11 pays tels que l'Égypte, l'Ouzbékistan, la Russie, l'Arménie, Cuba, l'Indonésie et l'Espagne. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Et ce soir, nous vous introduisons le culinaire de Madura, du riz serpang. Outre par l'intermédiaire de long cours, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de live streaming à www.voi.co.id. Duri Serpang est le plat typique de Bangkalan, exactement du village Sabian, en région Bangkalan. La recette du riz serpang est née des mains d'une femme nommée Turah, qui abaisse alors cette recette secrète du riz serpang aux 7 enfants. Maintenant, c'est les 7 enfants de Turah qui continuent de vendre du riz serpang à un nombre de places à la ville Bangkalan. Du riz serpang est similaire avec du riz mix qui existe presque dans toutes régions en Indonésie. Du riz serpang a sa propre caractéristique. Les vendeurs du riz serpang sont facilement trouvés sur la rue principale de la ville Bangkalan, avec des paniers étant en ligne, ajoutés par les grands parapluies qui les protègent. Du riz serpang doit utiliser du riz mulet de sorte que lors de la mastication dans la bouche, plus un mélange de plats exact, on peut sentir une sensation incroyable. l'accompagnement du riz serpent est entre autres les nouilles de verre, la bonnette à ventre rayée enveloppée dans des feuilles de bananier, des morceaux d'œufs salés, les crustacés épicés, ajoutés avec les galettes croquantes et la viande séchée. Du riz serpent est servi sur des feuilles de bananier. D'habitude, les vendeurs du riz serpent commencent leur activité à 6 heures du matin jusqu'à ce que leurs marchandises soient vendues. Le prix du riz serpent est 15 000 roupias par paquet. On doit acheter ce plat au matin parce que si on est en retard, il n'y a plus de riz serpent. Si vous visitez Madura, l'île près de Surabaya, allez à la ville Bangkalan pour goûter du riz serpent. Bon, chers amis, c'était la rubrique du magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence avec un autre sujet plus intéressant sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur. Chers amis, le prix de la ville mondiale de batik n'est pas simplement être le statut. Cependant, il y a encore de travail reste à faire après une telle détermination comme la ville mondiale de batik par le Conseil mondial de l'artisanat, comme par exemple le reste de traitement des déchets liquides qui sont très dangereux et polluants. Mais il y a maintenant un moyen de changer les déchets liquides d'être l'eau claire et prête à boire. Le manque de connaissance de la technologie dans la communauté environnante devient des propres problèmes dans la vie sociale. Ce qui se passe à la communauté de la région du centre de batik Gulu Rejo Lendah Kulon Progo, Yogyakarta. Comme le centre de batik, bien sûr, cette région fait face à des problèmes de déchets liquides restent de la production de batik. Les déchets liquides sont très dangereux et polluants pour l'environnement. Voir les programmes, cela veut dire voir les problèmes de déchets de batik à Kulon Progro, Institut des sciences et de la technologie, IST Akprin, Yogyakarta, développe la méthode de traitement des déchets batik en utilisant le système électrocoagulant. Le système électrocoagulant est un système qui utilise des éléments de la cathode et anode comme un capteur de déchets des métaux lourds et précipités. L'eau traitée passe ensuite à travers un bain de filtration rempli par le sable et split. Et enfin, ces déchets liquides dangereux produiront, deviendront l'eau claire et prête à boire. Au début, le traitement a été fait de façon mobile. Toutefois, en considération de l'efficacité, il fait permanent dans Faras Batik. C'est pour que les artisans du batik puissent jeter les déchets et recycler ensemble. Et les avantages maximums peuvent être sentis par la communauté. comme l'avantage réciproque pour les IST apprennent, les étudiants peuvent effectuer des recherches dans le lieu de traitement des eaux usées de batik. En outre, les étudiants peuvent également traiter le sédiment de déchets à être des briques comme boue lapindo. Jusqu'à présent, le traitement utilise les modèles de recevoir données d'oxygène. Avec ce nouvel outil, il est souhaitable qu'on puisse produire des déchets respectueux de l'environnement et puisse éviter la pollution. Chers amis, c'était notre programme L'Indonésie en couleur de la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Comme chaque semaine, nous présentons la rubrique Courrier et musique. L'équipe de l'émission française de la Voix d'Indonésie vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales et le rapport d'écoute et aussi le message. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et aussi présenter des chansons indonésiennes. Cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons pop chantées par Adinda Salahita. Bon, chers amis, avant de continuer cette rubrique, on écoutera d'abord la première chanson intitulée « Kantilia » chantée par Adinda Salahita.
Inginku untuk berkata yang telah kurangkai hanya untukmu. Ku bisikkan kata manisku yang tersirat dari hadirmu. Ku terbungkus dalam cintamu, ku termuai alunan kasihmu. Lihatlah dari mataku, cintamu melengkapi semua. Hidup bersamamu
Merci d'écouter la voix d'Irnesi diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée Kangtilia, chantée par Adinda Salahita. Cher ami, vous êtes en train d'écouter notre programme Courrier et musique. Maintenant, je vais saluer à notre nouvel auditeur, M. Omar Alfredo Ortiz Robayo de Bogota, Colombie. Merci pour votre email le 26 mars 2016. Je vais le lire. Chers amis de la voix d'Irnésie, j'ai récemment eu le plaisir d'écouter votre station. Je suis enthousiasmé par la radio, en plus particulièrement par les émissions internationales en haute cour. J'ai 22 ans et je suis producteur de radio et j'écoute les zones courtes pendant mon temps libre. J'habite à Bogota, Colombie, en Amérique du Sud. Ici, un rapport de réception très détaillé et de l'une de vos émissions destinées à l'Europe en langue française. La date de vendredi 25 mars 2016, fréquence 925 kHz, SINFO 23422, lieu de réception Bogota, Colombie. J'attache un enregistrement MP3 de cette réception. J'espère que ce rapport d'écoute vous aidera à connaître les conditions de réception de vos émissions dans mon pays. J'aimerais que vous accouchiez réception de ce rapport d'écoute avec une carte QSL et aussi recevoir le programme de vos émissions et un souvenir de votre station. Merci beaucoup. Voilà l'email de M. Omar Alfredo Ortiz Robayo de Bogota, Colombie. Merci pour votre email et j'espère que vous êtes toujours en bonne santé. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons de Adinda Salahita intitulées « Ne pas être entendu ». Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme Courrier et musique de la voix d'Indonésie. Et cette fois, j'ai présenté une chanteuse qui s'appelle Adinda Salahita. Bon, avant de terminer cette émission, nous allons présenter la dernière chanson intitulée « Dans tes yeux », chantée par Adinda Salahita. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Thank you.
chers amis, vous avez écouté tout à l'heure notre programme Courrier et Musique de la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.